morning, ladies and gentlemen. Would you like me to do it in English or in French? In English? So my name is Félicie Pastor, and I teach English at the Medical School of Toulouse. I started teaching English at the Medical School of Nantes 20 years ago. So it is a passion for me. Donc je vous demanderai d'excuser Pierre Payou, qui est responsable de la commission d'anglais au sein de la faculté de médecine de Toulouse, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui parce qu'il est à un congrès qui rassemble tous les médecins de médecine nucléaire de France et d'Espagne. Donc il me prie de vous demander de l'excuser. Donc je voudrais vous montrer comment à Toulouse on se sert grandement d'Internet pour enseigner l'anglais. On s'est demandé quelle politique d'enseignement de l'anglais on allait adopter, parce que à Toulouse, nous avons 180 heures d'anglais pour tous les étudiants. C'est obligatoire pour tous, sur 4 années. 60 en P2, 60 heures en D1, 30 heures en D2, 30 heures en D3. Donc il fallait un vrai projet pédagogique, quelque chose de suivi. On voulait que les étudiants soient capables de travailler sur la scène internationale, donc qu'ils soient capables de faire une communication orale et de faire une rédaction scientifique, un abstract et pourquoi pas un article, mais surtout un abstract. On voulait aussi qu'ils soient capables de se tenir au courant des dernières découvertes en pouvant faire la médecine basée sur les preuves qui aura le plus souvent lieu pour eux en anglais. Donc il faut les entraîner à faire une méthodologie de lecture de façon à ce qu'ils prennent confiance et qu'ils n'aillent pas chercher chaque mot. Et également, il y a beaucoup de gens qui parlent anglais qui ont acheté des propriétés dans le sud-ouest et même dans le fin fond de la campagne. Beaucoup d'étudiants qui deviendront des médecins généralistes auront besoin de pouvoir interroger des patients en anglais. Donc Il s'est agi d'enlever 180 heures de médecine, si vous comprenez bien, puisqu'on ne peut pas mettre plus d'un certain total d'heures de cours. Et donc, on a décidé de faire un enseignement transversal. Les deux premières années, on fait de l'anglais pour la médecine, avec quelques conférences avec les médecins. Donc, les enseignants de médecine sont très grandement impliqués. J'ai plus de 50 professeurs de médecine qui travaillent avec moi, qui font des conférences, 5 conférences dans l'année en P2, 5 en D1. Par contre, parce que ça c'est l'anglais pour la médecine, et à partir de D2, on fait de la médecine en anglais, et en D3, exclusivement de la médecine en anglais, sous forme d'une session intensive de 20 heures avec des cas cliniques. Donc j'ai 2 médecins qui viennent chaque après-midi, en début septembre, et nous avons donc 20 heures, donc intensive. Ça nous a demandé aussi, parce qu'on a à Toulouse 150 étudiants par promotion et que les étudiants sont extrêmement décidés à ce que tout le monde ait la même chose exactement. Donc il a fallu harmoniser l'enseignement au sein de la faculté, que tous les groupes aient les mêmes cours, les mêmes documents, travaillent à partir des mêmes bases pour être prêts pour le même examen. Ça nous a conduit à travailler en contact étroit avec les étudiants de la Corpo, qui sont en contact avec les étudiants de la NEMF, et nous avons donc mis au point, avec le groupe d'études et de recherche d'anglais de spécialité, à laquelle mon collègue Didier Carnet appartient aussi, auquel mon collègue appartient aussi, et les responsables de la NEMF, une charte d'enseignement de l'anglais qui permet d'harmoniser autant que faire se peut l'enseignement de l'anglais dans les facultés de médecine en France métropolitaine. Depuis 1997, avec Didier Carnet également, pendant que j'étais encore à Nantes, nous avions mis sur pied le diplôme interuniversitaire d'anglais pour les professions de santé, qui a toujours beaucoup de succès, qui continue. J'ai déménagé de Nantes à Lyon, puis à Toulouse, mais le diplôme interuniversitaire a eu d'autres universités qui se sont jointes à nous, et donc c'est un bon succès. Donc nous avons un existant que nous verrons tout à l'heure, et puis en projet, nous voudrions ouvrir le diplôme interuniversitaire aux facultés des pays francophones du Sud. avec une création de ressources numériques, parce que nous avons toujours beaucoup de demandes de médecins des pays du Sud. Et en particulier, à Toulouse, il y a beaucoup de médecins de pays du Sud qui sont en résidence et qui s'inscrivent au diplôme pendant qu'ils sont à Toulouse. Donc je sais que c'est un véritable besoin. Et enfin, grâce à cette harmonisation, à ces ressources que nous avons mises en commun, nous avons pu mettre sur pied une certification qui est le CLES 3 Santé. C'est la certification en langue de l'enseignement supérieur. Le niveau 1, c'est pour tout public. Niveau 2, c'est quand même encore grand public. Et niveau 3, c'est par spécialité. Et donc, la première session a eu lieu en septembre. Nous avions 31 candidats à un niveau C1 du Conseil de l'Europe. Donc, c'est vous dire l'intérêt que les étudiants ont porté à ça. Et nous avons eu 20 lauréats. Donc, les bases théoriques de tout ce travail, c'est une approche socio-constructiviste avec contextualisation de l'apprentissage pour un meilleur rappel des connaissances ensuite. Les ressources disponibles, nous les mettons sur Moodle au niveau de la faculté. Donc, tous les cours sont communs pour tous. Après, chacun le met en œuvre comme il veut dans son groupe. Et au-delà de ça, nous avons aussi le site d'anglais de la faculté de médecine de Toulouse qui est disponible sur l'UMVF également. Alors, je vous montre très rapidement une fiche de cours. Bon, c'est les fiches de la semaine dernière. Voilà ce que chaque professeur reçoit. Grâce à Internet, on peut aller, on peut cliquer. Ah. Ça ne marche pas ? Bon. Je ne sais pas pourquoi, parce que chez moi ça marchait. Mais je fais contrôle et ça ne marche pas. Bon. Oui, on n'avait pas essayé ça. Donc, les étudiants peuvent aller, et c'est de la méthodologie de lecture rapide. Ce qu'on veut qu'ils soient capables de faire, c'est arriver à faire ce qu'on appelle en anglais « top-down approach », prendre les repérages, lire, et ça leur est extrêmement utile également pour l'épreuve de LCA. Depuis le P2, on leur fait faire de la méthodologie de lecture rapide, et ils disent que ça les aide à prendre mieux les repérages quand ils font leur épreuve de LCA. Voilà. Et ensuite, alors je suis désolée parce que on peut aussi, donc non seulement là, c'est parce que les virologues cette semaine nous ont fait des conférences et donc le programme d'anglais pendant 2 semaines tourne autour de virologie. Donc on a de quoi lire tous ensemble, on a de quoi lire dans 2 groupes différents qui ensuite peuvent venir échanger ou les uns avec les autres sous forme de pair work ou ensuite venir faire un résumé devant toute la classe. On a aussi, en cliquant ici, directement accès au site professionnel Centers for Disease Control, alors avec un petit extrait qui dure 5 minutes, ça se prête tout à fait à une exploitation en classe. Et puis ensuite, on a du travail à faire, du travail obligatoire et du travail optionnel. Chacun peut trouver comment faire. Bon, on pourrait montrer ici, par exemple, pour le cours de D1, on a, cette semaine-là, on avait cross-cultural healthcare et puis la consultation. Alors, pour la consultation, donc là, on avait un petit film en dehors, mais ici, on peut aller voir comment faire une consultation du BMJ. Hein. Donc, c'est la formation médicale des étudiants en médecine britannique. C'est important aussi de voir comment les étudiants ailleurs sont éduqués et puis d'observer les différences. Et on peut aller aussi ensuite pour la consultation sur le site de Bourgogne que Didier Carnier vous présentera tout à l'heure. Bon, c'est comme ça pour toutes les années. Et je voudrais vous montrer finalement le site donc, qui est accessible pour tous, puisque Moodle n'est accessible qu'à nos étudiants. Mais ici, donc, le site qui a été fait en respectant la... Non, c'est pas mieux ça. En respectant la charte signée avec les étudiants de la NEMF. Donc la charte, vous la trouverez ici. Pour la consultation, vous trouvez toutes les ressources possibles et imaginables. Donc par exemple, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire « How to take a patient history ». Donc vous avez tout, Évidemment, ça leur fait faire de la lecture rapide, évidemment, ça leur apprend le vocabulaire, et évidemment, on voit aussi les différences interculturelles sur comment ouvrir et fermer une consultation, également quelques phrases vraiment authentiques, et puis je pense que ça les rapproche de leurs homologues britanniques, qui sont très contents toujours de travailler dans les instances internationales au sein de l'IFMSA, et ils ont des véritables réseaux. Où ils ont l'habitude de travailler ensemble. Vous avez le vocabulaire adéquat. Vous avez également, grâce à tout ce qui est disponible sur Internet, des tests, des quizzes, vous pouvez jouer à ça, body organization, donc vous pouvez... Bon, non. Bon, pas de chance parce que chez moi ça marche, je vous assure. On dirait pas, mais c'est vrai. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire qui sont en libre accès. Et vous avez aussi des références au dictionnaire de prononciation. Bon, et c'est, voilà. Tout ce qu'on avait négocié avec la NEMF se retrouve ici, par communication interpersonnelle, séance de questions-réponses. Vous avez pour lire, écrire. Pour écrire, vous avez les différents genres qui vont être utiles à des médecins. De l'abstract au résumé. Dans Listening and Note-Taking, vous avez tous les programmes vidéo et audio des grands périodiques en anglais. Public Speaking, vous avez toutes les questions, les instructions sur comment rédiger. Il y a toujours des fiches méthodologiques que je fais pour les étudiants de Purpan et que je mets aussi. Et ça donne de bons résultats que vous pourrez regarder ici. Dès le P2, par exemple, les étudiants sont capables de faire des diaporamas et de les commenter sans avoir de notes. J'ai mis aussi toutes les annales. Les étudiants sont très contents. Je pense que d'autres universités peuvent les utiliser également. Il y a les réponses. Il y a des choses intéressantes pour la FMC, avec des learning modules, c'est interactif et c'est en accès absolument libre. Il y a tout ce qui concerne le diplôme interuniversitaire des différentes universités partenaires et j'espère bientôt de l'ouverture au pays du Sud. Et puis ce qui concerne le certificat de compétence en langue, qui est pour les langues l'équivalent du C2I. Et c'est très extrêmement, les étudiants sont très contents parce qu'on fait un gros travail de reconnaissance au niveau européen. Évidemment, s'ils vont aux États-Unis, on va leur demander le TOEIC ou le TOEFL qui est payant, tandis que le CLES 3, pour les universités qui l'ont mis dans leur projet quadriennal, est parfaitement gratuit. Il n'y a pas de préparation spécifique. Pour nous, ça tombe bien parce qu'il faut... Il faut pouvoir lire rapidement, dégager les informations essentielles, fabriquer un diaporama, présenter oralement pendant 10 minutes, répondre aux questions-réponses et ensuite rédiger quelque chose. Et au fait, c'est ce qu'on les entraîne à faire de P2 à D3. Et donc nous proposons le CLES 3, médecine, en D3, au terme des 180 heures. Voilà, et puis il y a quelques jeux, parce que c'est toujours agréable de jouer.
Merci.
Bravo. Merci.
Bonjour à tous. Je suis également enseignant d'anglais en faculté de médecine, comme Félicie Pasteur précédemment. Je travaille à Dijon, à l'université de Bourgogne. Et je vais vous présenter aujourd'hui les nouvelles applications pédagogiques du site d'anglais médical de l'UMVF, intégré à l'UNF 3S bien sûr, site qui est en ligne depuis 2008 et dont la deuxième tranche vient d'être terminée. Nous travaillons actuellement sur une troisième tranche qui sera mise en ligne l'été prochain. Et nous sommes relativement satisfaits puisque au bout de 2 ans de mise en ligne, cet été, nous avions déjà dépassé les 2 millions de connexions sur le site d'anglais médical. Un tel succès que le serveur a sauté pendant l'été. Pendant un mois, il était inutilisable. Donc on a dû tout rouvrir. L'objectif a été, au contraire de Félicie Pasteur qui travaille plutôt sur la méthodologie, pour nous, l'objectif a été de mettre des ressources en ligne, de créer une banque de données directement utilisable par les étudiants et par les médecins qui ont besoin d'écrire en anglais, de communiquer en anglais. Nous nous appuyons à Dijon sur un enseignement progressif qui va de la première à la sixième année, puisque l'anglais est enseigné toutes les années à Dijon, depuis PCEM1, que maintenant on appelle PACES, et jusqu'à la sixième année. Les 3 premières années, nous faisons de ce que l'on appelle de l'anglais pour la médecine, pour appréhender la médecine. Et les 3 années suivantes, les 3 dernières années, nous faisons de la médecine en anglais, puisque nous avons un enseignement intégré à partir de la D2, où tous les cours d'anglais se font en petits groupes avec 20 étudiants. Les cours sont obligatoires, tous les étudiants viennent en D2, en D3, partout. Et dans chaque groupe, il y a systématiquement un enseignant du département d'anglais, puisque nous sommes 6 à Dijon, et un médecin avec qui on travaille. Et le cours se fait 100% en anglais, et c'est de la médecine en anglais. On fait des cas cliniques en anglais. Nous avons également, bien sûr, un service de formation continue. Et nous avons mis en place le fameux DU dont parlait Félicie, DU d'anglais pour la médecine, qui existe avec Limoges, Créteil et Toulouse-Purpan. À Dijon, nous avons deux formules. Une formule en présentiel que nous appelons DIVAM. C'est simplement pour faire la différence DIVAM-DIVAS. DIVAM, c'est diplôme interuniversitaire d'anglais pour la médecine, pour les médecins bourguignons qui viennent toutes les semaines en cours. Et une formule qui s'appelle DIVAS, diplôme interuniversitaire d'anglais pour la santé, qui s'adresse à tous les médecins de l'Hexagone et qui font du travail en ligne, en utilisant le site par exemple, et qui se regroupent une fois par mois à Dijon, un samedi par mois. Et enfin, nous préparons également les étudiants à la mobilité, puisque nous envoyons de plus en plus d'étudiants en Australie, l'Inde est à la mode en ce moment, et ils parlent anglais en Inde. Et nous préparons également tous les hôpitaux universitaires à la mobilité internationale, qui est de rigueur maintenant. Notre expérience dans le secteur nous a aidé à travailler sur ce site. Voilà quelques-unes, enfin non pas quelques-unes, excusez-moi, c'est trop prétentieux, c'est toutes les publications que nous avons réalisées jusqu'à maintenant. 8 livres qui ont déjà été publiés. Le premier, c'est un manuel de cours pour les étudiants de première, deuxième et troisième année. Le deuxième, un manuel d'exercice que j'ai fait avec Félicie notamment. Nous avons également fait 3 dictionnaires spécialisés et plusieurs guides de travail, des guides pratiques, l'un pour la communication orale en congrès, comment faire une communication en congrès, l'un autre pour préparer la mobilité, et le petit dernier qui est comment rédiger un article de recherche et comment publier en anglais. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons également une solide expérience en multimédia avec plusieurs CD-ROM et publications. Vous pouvez remarquer qu'on s'est arrêté en 2006, puisque depuis 2007, nous avons été embauchés par Albert-Claude Benamou, et nous ne travaillons plus que pour l'UMVF, donc nous avons renoncé à tout le reste. Il faut faire des choix dans la vie. Donc, fort de cette expérience, je vais vous présenter maintenant, ça va être assez ludique, je vais vous montrer le site, tout simplement, et je vais vous montrer comment y accéder et ce que l'on propose. Alors, c'est là qu'on voit si ça marche. Je vais passer par l'UNF3S. J'y arrive, je vais sur l'UMVF, et lorsque j'arrive sur l'UMVF, je choisis ressources par discipline, et en principe, j'arrive sur le site de l'UMVF, je choisis dans le A, anglais médical ou Medical English Department, and I reach this fantastic site, which is in Dijon. I'm just going to show you a few of the sites. First, we have a dictionary, and you will tell me, a dictionary is very easy, because there are a lot of medical dictionaries, except that it is a talking dictionary. And when you prepare your presentation, if you don't know how to pronounce this word, for example, it's easy, you just click on it.
Abepithemia.
And you know how to pronounce it. If you don't know how to put the stress, because you know that in English stress is very important, it is a key word, you have the syllable which you must stress, which is underlined. So you know that it is not abduction, but
abduction.
Abduction. You stress the second one. It's easy to use, you just go down, if you want to know how to pronounce that, you click
acoustic
here.
Coupling gel.
This little square follows you everywhere, so you want to find a word in M, you go to M, you don't know how to pronounce this word, you click on it.
Macroglobulinemia.
And we put both the British spelling and the American spelling, because there are a few differences between British English and American English, unfortunately. Okay. Or maybe I will close it. Deux, trois petits mots en français. Je ne présente pas les rubriques. Nous avons ensuite toute une série d'exercices lexicaux qui s'adressent principalement aux étudiants en début de cursus, des petites explications grammaticales qui sont parfois utiles, des exercices de traduction que l'on appelle interactifs, puisque vous faites l'exercice et vous êtes corrigé et commenté. Mais tout ça, je l'avais déjà présenté, donc je montre simplement les nouveautés. Nous avons également toute une liste très très longue et qui s'allonge continuellement de vidéos médicales, vidéos pour qui permettent de travailler de la manière suivante. Vous avez à la fois, donc je vais prendre cardiology, une fiche de lecture, a worksheet in English, where you have a lot of questions about a video which you can watch. You just click here and you watch the video. Je ne vais pas le faire parce que ça risque de nous prendre un petit peu trop de temps. Si donc vous écoutez la vidéo une fois, deux fois, trois fois, vous essayez de répondre à toutes les questions. Si vraiment vous avez des problèmes, que faites-vous? Vous allez chercher le script qui est juste à côté, puisqu'on a rédigé le script, et vous avez le script qui apparaît avec tous les mots difficiles qui sont expliqués en bas. Donc, outil de travail assez utile pour vous. Je continue dans les nouveautés. Une rubrique sur la présentation orale, comment faire une communication en congrès. Et ce que nous avons fait ici, nous avons pensé que le mieux c'était de montrer. Donc nous avons fait toute une série de vidéos qui montrent comment se passe une présentation orale, en donnant ensuite toute la technique, tout le vocabulaire, etc. So if you want, you can have an
example. Dear colleagues, please be seated. The meeting is about to begin, and I'm afraid we have a very tight schedule today. It is my very great pleasure to welcome you to the good city of Edinburgh. We are pleased to have with us today the Secretary of State for Health. I'll ask him to say...
Okay, we don't go on, but you can use it and work on your own. Nouvelle rubrique également qui a été mise en ligne cet été, Words and Phrases for the Specialist. On a pris les principales rubriques, spécialités médicales, pardon, et on a classé tous les termes s'y rapportant, l'anatomie, la physiologie, les mots-clés, sans la prononciation ici, puisque ce sont des mots uniques, donc il suffit d'aller les chercher dans le dictionnaire et vous aurez la prononciation. La grande nouveauté, c'est toute une série d'expressions. So all the questions that a cardiologist will ask his patient, if you want to practice, you just listen.
Do you have high blood pressure?
For the dictionary, the voice was male and British. For this expression, the voice is female and American. So that we try to... so that the users can get used to all the different accents. So we have all the expressions.
Have you recently put on weight?
And we've got quite a lot. You go on, you practice. So this is for specialties. What else? Interactive case studies. Ça, c'est plutôt pour les étudiants. Pour les entraîner, nous avons mis 5 cas et nous sommes en train de travailler sur 5 autres cas. Des cas telles les questions ECN, puisqu'on travaille avec les médecins qui préparent nos étudiants aux ECN, sauf qu'on les fait en anglais, nous. Donc, vous avez history taking, l'interrogatoire du patient, l'examen clinique, la discussion, le diagnostic différentiel et le diagnostic final. Cette fois-ci, on n'a pas filmé puisque c'est un petit peu trop lourd, donc on a utilisé des avatars.
Good morning, Mrs. Tennis. What can I do for you today?
Well, I've been feeling a pain in my left calf.
When did the pain start?
It started about an hour ago.
How would you describe the...
etc., etc. Je m'arrête. Tout apparaît à l'écran, mais avec toujours un temps de retard, de telle sorte qu'on travaille d'abord la compréhension, et ensuite, si on n'a pas bien compris, on lit. Et en général, la lecture ne pose pas de problème. Donc ça, les étudiants aiment beaucoup ça. Ils nous disent, mettez-en plus, ils ne se rendent pas compte du travail que c'est. Ça, c'est les cas cliniques. Et puis, la dernière nouveauté, c'est comment écrire un article de recherche, comment publier, ce qui est important quand on est un jeune médecin. Ça, donc c'est uniquement pour les médecins. Ça, c'est pas le plan du maître de Londres, bien que ça ressemble. On s'en a inspiré, on s'est amusé un petit peu à faire ça. Et donc, on a classé toutes les rubriques. Why publish, how to write an email, choose the right journal, the IMRAD structure, which you know, I'm sure, how to choose the title and so on. This is how it
works. Why publish?
You click on it. We always have questions.
I've gathered enough data to write a full-length research article. Do you think I should really get it published?
And we have the
publish
answer.
Publish or perish? Publish and flourish. And of course, publish in English.
Of course, yes, publish in English. So we always have questions, answers, after we give a lot of links to help you to write a perfect article, a lot of vocabulary and a few exercises to practice. This is the site. I'm going to close it now. Voilà. Et juste un petit mot pour conclure, donc... je veux vous dire que l'enseignement à distance tel qu'on le pratique, puisqu'on pratique de plus en plus l'enseignement à distance, abolit en fait toutes les distances, puisque c'est pas parce qu'on est situé très très loin qu'on ne travaille pas en présentiel. J'ai été très très content lorsque je vous disais que le nombre de connexions dépasse 2 millions de connexions en moins de 2 ans d'ouverture, et d'apprendre, notre statisticien nous sort des statistiques régulières, voir que le site est utilisé en France, et heureusement, mais également dans tout le monde francophone, beaucoup en Afrique, beaucoup en Amérique du Nord, les Canadiens l'utilisent également, et donc ça c'est une grande satisfaction. Nous travaillons actuellement sur la troisième tranche, et pour la troisième tranche, dans les nouveautés, nous allons mettre une rubrique, vous avez vu la rubrique qui présente toutes les activités, toutes les spécialités médicales avec les questions, etc. On fait la même chose, mais avec toutes les acronymes et les sigles, ce qui est très très utile. Par exemple, en cardiologie, un pontage, c'est CABG. Mais si vous dites que si vous savez que c'est CABG et que vous dites CABG, personne ne vous comprendra. Il est utile d'avoir le son aussi, ça se prononce cabbage. Donc il y a des tas de choses comme ça qu'il faut connaître et que l'on va mettre en ligne. On travaille également sur de l'anatomie. On va mettre des planches anatomiques plutôt humoristique, ça va être plutôt pour les étudiants en début, donc on est en train de travailler là-dessus. Et puis on va faire toute une rubrique sur la correspondance professionnelle également, aider les étudiants ou les médecins à faire, à écrire son CV en anglais, à faire une lettre de recommandation, une lettre de motivation, etc. Voilà, that's all folks, thank you.
Je vais essayer de vous faire un bilan de ce que nous avons monté entre différentes facultés de pharmacie donc sur le projet C2i Santé. C'était un projet qui était assez intéressant puisqu'il nous a permis de montrer qu'il était possible de travailler collaborativement entre plusieurs facultés. Si je ne parle pas assez fort, vous n'hésitez pas. Alors, tout d'abord, un petit mot sur la genèse du projet. C'est un projet collaboratif qui est né entre Limoges et Poitiers en 2008 d'une idée un peu farfelue, je dirais bien, parce qu'on s'est rencontrés par hasard et on a décidé de se lancer là-dedans. Et puis, on a été suivis, donc c'était formidable. Donc, basé d'abord sur l'utilisation de logiciels de communication exclusivement pour permettre un travail des apprenantes sur différents sites, donc exclusivement à distance, puisqu'il n'était pas possible de déplacer les étudiants de Limoges à Poitiers, bien qu'il n'y ait que 110 km entre les deux villes. Notre équipe a été renforcée dès 2009 donc par Bordeaux 2, donc avec la présence donc de Yves Marliac qui est juste à ses côtés. Et maintenant, nous sommes en septembre, depuis septembre 2010, nous avons été renforcés également par les universités de Lille 2, Nancy, Strasbourg et Tours. Donc actuellement, nous travaillons à 7 facultés. Alors, comme organisation que nous avons mis en place, puisqu'il s'agit d'un travail collaboratif pour 7 facultés de pharmacie, donc nous continuons à utiliser le principe qui a été mis en place au départ, c'est-à-dire constituer des groupes de travail, mais des groupes de travail mixtes obligatoirement de 4 étudiants. Donc ça veut dire que les étudiants ne sont pas tous sur le même campus et volontairement ils sont obligés d'être mixés pour pouvoir travailler entre eux. Nous mettons en place un calendrier avec des objectifs hebdomadaires et ce calendrier est coupé en deux parties, en deux grandes parties, donc qui se dissocient essentiellement entre collaboratif et sécurité. Nous avons pris le parti de travailler préférentiellement en dehors du bureau virtuel, puisque le bureau virtuel, lorsque les étudiants vont quitter l'université, a priori ne l'ont plus, et il faut qu'ils apprennent quand même à utiliser des outils qu'ils seront capables de trouver ailleurs que via l'université. Le travail que nous leur imposons cette année s'étale sur 18 semaines. Il y aura une plage de 1 heure, enfin un peu moins d'une heure, 45 minutes, pour l'examen en ligne correspondant au QCM théorique final, donc qui est imposé dans le cadre de la certification du C2I2. Nos étudiants sont recrutés sur la base du volontariat. Le travail qu'on juge nécessaire pour ces étudiants est compris entre 30 et 50 heures, parfois moins hein, si les étudiants sont assez aptes à manipuler les outils, ou parfois plus même, mais bon, c'est surtout eux qui jugent de leur propre temps de travail en réalité. Nous, on juge aux alentours de 40 heures. Nous avons prévu 2 présentiels de lancement, puisqu'il y aura 2 parties interrompues par les vacances de Noël. Et chaque présentiel donc débute le travail donc phasé de chacune des parties. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un travail à distance que nos étudiants sont forcément laissés à eux-mêmes. Ils sont en permanence suivis. Ils sont suivis de plusieurs manières, essentiellement par messagerie, bien sûr, ou alors éventuellement, comme il y a des interlocuteurs, des enseignants locaux dans chaque site, ils peuvent aller aussi consulter leurs enseignants. Ce n'est pas forcément l'idée qu'il faut retenir, mais il faut montrer surtout que jamais ils ne sont livrés à eux-mêmes et surtout jamais ils ne doivent être perdus. Donc par ce biais-là, si on doit communiquer, il y a aussi donc les outils classiques, forum, chat, qu'on impose aux étudiants comme étant programmés. C'est même à eux de programmer leur propre clavardage lorsque c'est nécessaire. Donc cette aide donc doit être absolument personnalisée également, et on verra tout à l'heure un exemple justement de ce qui a été fait pour cette personnalisation. Il y a donc 2 phases. Il y a 2 grandes phases dans la chronologie. Il y a la première phase donc qui sera mise en place dès le début, qui concerne un travail collaboratif, donc qui nécessite donc la maîtrise des outils collaboratifs, donc notamment la mise en place d'un agenda partagé, l'utilisation des outils de visioconférence, des listes de diffusion, et tout ça basé avec des logiciels libres principalement. S'il n'y a pas de logiciel libre, tant pis, hein, on prendra les logiciels qui existent, mais il ne faut surtout pas que ça nous arrête. Dans la partie travail documentaire, donc qui correspond au domaine 1 de la certification, donc on met en place donc tous les travaux nécessaires pour mettre en place une veille, l'utilisation d'informations, l'évaluation de la qualité des sites et des informations trouvées donc sur les sites de médecine et de pharmacie, actuellement principalement plutôt pharmacie. Tout ça, c'est un travail collaboratif qui est omniprésent tout le temps. C'est-à-dire qu'il commence dès maintenant et jusqu'à la fin de la certification, le travail sera forcément collaboratif entre les étudiants. Jamais un étudiant ne devra travailler seul. Toujours dans la phase 1, on terminera donc la première phase par la mise en place des notions, des connaissances juridiques, donc notamment sur le secret professionnel, traitement automatisé donc des données, les règles d'accès et la propriété intellectuelle. Et un travail collaboratif sera mis en place pour l'élaboration d'un dossier basé aussi sur les nécessités de règles et de droits, notamment pour les déclarations à la CNIL lorsque les fichiers sont élaborés. Tac. La phase 2 de la chronologie donc reprendra à partir de janvier puisque il y aura l'interruption donc hivernale et festive. Reprendra donc sur une partie sécurité où on apprendra aux étudiants à utiliser des outils de sécurisation des échanges, basés sur des outils de chiffrement. On leur apprendra à manipuler des clés de chiffrement, donc notamment publiques et privées, puisqu'ils seront obligés, eux, de créer donc leur trousseau et d'échanger avec leurs collègues leurs clés publiques de manière à pouvoir communiquer de manière sécurisée. Tout ça, c'est toujours basé sur l'idée d'un travail collaboratif et donc nous mettons en place sur cette base, donc uniquement avec des échanges chiffrés et sécurisés, donc un travail qui nécessitera des communications de données qui sont censées être confidentielles, puisque basées sur des prescriptions médicamenteuses, donc il est hors de question, par exemple, qu'une ordonnance puisse circuler en clair sur le réseau Internet. Et donc, pour la partie système d'information que nous avons essentiellement orientée, donc pour l'instant, par manque d'étudiants de médecine, en fait, essentiellement côté pharmacie, donc où nous leur apprenons à manipuler les outils de gestion d'officine, les cartes professionnelles de santé, donc l'utilisation du dossier pharmaceutique. On leur parle un peu du dossier médical personnalisé, mais c'est vraiment que parler puisqu'on ne peut pas le mettre en place. On étudie également avec eux la mise en place des feuilles de soins de santé, le système Sésame Vital et tout ça basé aussi sur l'utilisation donc de l'analyse d'ordonnance puisque c'est l'objet du travail collaboratif dans la partie sécurité. Pour pouvoir mettre en place ce travail, nous avons utilisé une plateforme de cours tout à fait standard et classique, puisqu'il était hors de question que nous soyons originaux dans ce contexte, une plateforme donc basée sur Moodle, puisque Moodle était déjà un outil qui était utilisé chez nous à l'Université de Limoges, dans un autre campus, pour d'autres activités. Donc en fait, nous n'avons fait que réutiliser un outil existant déjà. Bien sûr, nous l'avons adapté à ce que nous voulions faire. Vous avez devant vous donc la présentation de la page actuelle, donc la session que nous avons commencée déjà cette année. Vous avez un petit panel des intervenants du groupe donc, de travail, qui est appelé C2I Team BLP, que vous voyez en haut à droite, entre parenthèses. Donc, vous pouvez peut-être reconnaître certains intervenants. Il y en a quelques-uns dans la salle, il y en a certains qui ne sont pas là parce qu'ils n'ont pas pu venir. Mais il faut surtout savoir que tout le monde n'est pas là. J'espère bien un jour pouvoir faire une photo de groupe beaucoup plus conséquente. Le travail de groupe donc, est basé sur un travail regroupant 4 étudiants, principalement émanant des différents sites. Donc, ces étudiants sont groupés. Ici, vous avez un aperçu de la présentation du groupe, donc sous l'aspect d'une page de présentation dans l'espace de cours, où on recense donc les noms des étudiants appartenant au cours. Et ce qu'il faut aussi voir, c'est que ces étudiants ne doivent jamais être laissés seuls, et ils sont en permanence accompagnés par un enseignant. Je me suis permis de me mettre, moi, en tant qu'enseignant référent, mais il est clair que tous les enseignants qui participent à l'expérimentation se voient aussi attribuer l'encadrement de groupes de travail. Les ressources de cours que nous déposons sont tous médiatisées, enfin si possible, si ce sont les notes bien sûr, tous médiatisées grâce à l'outil ScénariChain qui nous permet donc de constituer donc ce genre de présentation relativement homogène, où on trouve donc côté gauche donc le menu et côté droit donc la partie visualisée pour l'item donc sélectionné. Et donc c'est un cours complet qui peut être visualisé directement via la plateforme. Le travail étant phasé, les étudiants dès le début sont mis au courant des différentes phases de travail qu'ils auront à suivre. Donc par exemple ici, je vous présente la première partie travail qui va avoir lieu. Donc, il a déjà commencé au 18 octobre et qui finira au 17 décembre. Donc ici, nous commençons tout d'abord par une phase qui est prévue, qui avait été prévue, étalée sur 2 semaines, à trouver un moment pour faire un présentiel de rentrée de 2 heures. Puis, lorsque cette phase est terminée, on commence la phase que j'ai appelée période 1, qui consiste à mettre en place tout d'abord une mise en connaissance des documentations basées sur les ressources documentaires et l'utilisation des documentations donc dans le domaine de la santé, et surtout l'évaluation des informations qu'ils trouvent. D'une manière générale, lorsque c'est nécessaire, pour vérifier que les étudiants ont bien pris connaissance de toutes ces documentations, on applique également un QCM d'auto-évaluation. Ce QCM n'est là vraiment que pour voir où en sont les étudiants dans leur propre connaissance. Ce QCM peut être effectué tout au long de la période concernée, bien sûr, bien qu'il puisse normalement réellement être fait qu'à partir du moment où les documentations ont été toutes lues. La période suivante donc, est juste une période complémentaire à la première, donc, où on fait manipuler les outils qui seront nécessaires pour la mise en place bibliographique. Ça, c'est donc une phase préparatoire au travail de groupe. J'ai été un peu vite là. C'est une phase préparatoire donc, qui va être nécessaire pour la suite, pour pouvoir mettre en place le travail collaboratif à proprement parler, où les étudiants devront choisir un sujet qui leur seront proposés et qu'ils devront traiter à 4. Et j'entends bien à 4, c'est-à-dire qu'à tout moment, aucun étudiant ne devra faire le travail pour les 3 autres qui ne feront rien. Chacun fera une partie et c'est le regroupement de tous ces travaux qui fera la synthèse. La première phase de travail donc, se terminera par la période 4, qui est la période donc, typiquement juridique, où là, toutes les connaissances donc, basées sur l'aspect juridique seront traitées. Il est clair que nous avons fait appel à des juristes spécifiquement pour cette période, pour pouvoir mettre au point un vrai travail qui tienne la route. Alors, il y a une deuxième période de planning qui est mise en place. Bien sûr, je vous en fais grâce, ça marche un peu sur le même principe. Chaque période débute par la mise en place de consignes de travail. Donc ici, par exemple, je vous ai pris l'exemple d'une consigne de travail que nous avons déposée pour la session précédente, où nous indiquons donc les dates concernées pour la session et les consignes que nous attendons voir réalisées par les étudiants, par le groupe de travail. Par exemple, ici, je vous prends aussi comme exemple le sujet de synthèse bibliographique. Nous vous proposerons plusieurs sujets. Chaque groupe devra choisir un seul sujet et surtout ce sujet sera forcément unique. Aucun groupe ne pourra avoir le même sujet qu'un autre groupe. Lorsque ce travail est réalisé, donc grâce à la plateforme Moodle, nous leur demandons de déposer un document de synthèse unique pour le groupe entier. Donc ici, par exemple, pour le groupe 1, un seul document a été déposé contenant les travaux de tous les étudiants. Pour que ces étudiants puissent s'organiser dans leur propre travail, nous avons aussi mis en place un système de gestion d'agenda partagé. Donc ici, je vous montre l'exemple de mon agenda perso, associé aux agendas des étudiants qui ont travaillé sous ma tutelle. Et on voit apparaître donc sur l'agenda global donc les différentes occupations des différents étudiants. Ici, notamment, nous avons programmé des chats donc pour pouvoir communiquer à un moment donné. Je vous ai parlé tout à l'heure du suivi individuel des étudiants. C'est ce genre d'outil que nous avons utilisé, TeamViewer, qui est donc pas un logiciel libre, malheureusement, et un logiciel même payant, mais dans l'utilisation individuelle et gratuite. Donc on joue un peu sur les mots, mais en fait c'était nécessaire parce que cet outil est vraiment très pratique pour permettre aux étudiants de bien comprendre ce qui se passe sur leur propre ordinateur. Par exemple, ici, je vous montre un chat qui a été mis en place tout d'abord avec l'étudiant pour commencer à initier la communication. Ce que je fais systématiquement dans ce cas-là, c'est que je demande à l'étudiant si d'abord il est d'accord d'accepter que je prenne la main sur son ordinateur. S'il y a un refus, il n'y a pas possibilité de ma part pour pouvoir prendre cet ordinateur en main. Bon, généralement, comme il y a demande d'aide, généralement, la demande est souvent acceptée. Donc ici, je prends la main directement sur la machine de l'étudiant et je manipule en lieu et place de l'étudiant pour montrer ce que cet étudiant aurait dû faire. Et en même temps, donc l'étudiant regarde. Bon, ça c'est passif. Mais à la fin, je remets tout en place et je demande à l'étudiant de refaire exactement la même manipulation, ce qui me permet moi de voir que l'étudiant a compris ou non. S'il n'a pas compris, je recommence. Nous avons mis en place des... J'ai combien de temps? Nous avons mis en place des communications chiffrées. Donc ici, par exemple, un document, un message qui m'est envoyé à moi. Donc vous voyez le contenu totalement illisible. Et lorsque j'ai la clé, lorsque l'étudiant a bien chiffré avec ma clé publique, je peux donc déchiffrer le message. C'est tout de suite plus lisible, hein, vous remarquerez d'ailleurs. Comme la certification de 2009, je vous l'ai pris comme exemple parce qu'elle est intéressante. Ici, nous avions trois étudiants de Bordeaux inscrits sur trois étudiants validés qui ont validé le C2I sur 9 inscrits, 12 étudiants de Limoges sur 14 inscrits qui ont validé, 10 étudiants de Poitiers sur 18 qui ont validé, ce qui nous donnait un total de 25 étudiants certifiés sur 41 inscrits. En conclusion, donc l'expérimentation a débuté en 2008. Actuellement, nous en sommes à la quatrième session. Le bilan, je vous en fais grâce peut-être, c'est que des chiffres. Ce qui est intéressant de voir, c'est surtout qu'à partir de 2010, nous sommes donc, enfin depuis cette année, donc pour la session 2011, nous sommes donc à 7 facultés contre 3 jusqu'à l'année dernière. Et la question que nous nous poserons, c'est de savoir combien nous aurons d'étudiants certifiés. L'année dernière, nous en avions 36. Pourquoi nous avons choisi ce genre de méthode? Tout simplement parce que il est intéressant de mettre en commun des ressources entre deux facultés distantes. Et l'intérêt de pouvoir travailler sur le C2I Santé, c'était surtout de pouvoir mettre en place quelque chose d'assez simple, en fait. Donc, nous avons mis de manière administrative une convention interuniversitaire en place, qui est en train de circuler entre les universités, justement, pour être signée. Nous avons mis également un règlement des études commun à toutes les facultés partenaires et un jury commun aussi pour la délibération. Le travail collaboratif interfaculté expérimental est accompagné, donc est surtout intéressant car c'est simple administrativement puisqu'il ne s'agit pas d'un diplôme mais d'une certification, ce qui a simplifié beaucoup de démarches dans un premier temps. Bien sûr, ce modèle tel que nous avons appliqué de travail peut être appliqué en fait à toutes sortes de diplômes interuniversitaires. Après, bien sûr, il se posera les questions du financement pour le développement d'outils spécifiques et quel sera l'avenir l'année prochaine, combien de facultés, d'autres facultés accepteront de nous rejoindre. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est ouvrir aussi à la formation continue. Là, l'équipe C2I Team BLP, la voici. Donc, cette faculté, j'ai appris que j'avais fait une erreur sur un nom. Alors, si la personne se voit, je m'en excuse dès maintenant. C'est vraiment moi qui ai fait l'erreur.
Merci. Philippe. Donc, la première année commune aux études de santé, que je vais appeler PACES tout au long de ma présentation, est régie par un texte officiel qui incitait les facultés à présenter les différents métiers auxquels les étudiants auront accès s'ils sont classés en rang utile. Alors à la faculté de médecine de Nancy, du moins non, pas du tout à la faculté de médecine de Nancy, à l'université Henri Poincaré de Nancy, donc le comité de pilotage de cette PACES a décidé de réaliser une présentation générale des différents métiers accessibles et uniquement les métiers accessibles quand l'étudiant est reçu en rang utile. On ne s'est pas intéressé pour l'instant aux réorientations possibles. Donc une présentation générale faite par sous la forme d'une conférence de 50 minutes qui présentera, parce qu'elle n'a pas encore eu lieu, les différents métiers accessibles et les différentes formes d'enseignement. Et on a décidé de compléter cette conférence par un site qui permettra aux étudiants de se renseigner de façon beaucoup plus importante avant de faire le choix de leurs UE spécifiques au deuxième semestre, en découvrant un petit peu les différentes possibilités qui seront offertes à eux s'ils sont reçus. Alors voici la présentation du site que je vais vous détailler. Donc deux bandeaux de chaque côté, un bandeau droit qui présente des fiches métiers. On va revenir sur ces fiches métiers dans les diapos suivantes. Des vidéos et en général plus de vidéos que de fiches métiers parce que sous l'intitulé par exemple ergothérapeute, on a pu filmer des ergothérapeutes dans différents centres de réadaptation. Sous l'intitulé sage-femme qui apparaît en dessous de ce bandeau, on a pu filmer différentes possibilités d'exercer le métier de sage-femme et notamment un sage-femme en salle de travail, une sage-femme en libéral et une sage-femme échographiste. Les vidéos donc peuvent être appelées directement par l'intermédiaire de ce pavé ou bien par l'intermédiaire des fiches métiers. Alors la fiche métier, elle reprend un résumé de ce métier, quels sont les rôles principaux qui vont être réalisés par ce professionnel, la nature du travail, les différentes tâches, les différents modes d'exercice. Il est important aussi de donner aux étudiants les différentes possibilités d'exercice d'un métier en cabinet privé, en milieu hospitalier, en groupe, les compétences requises. Qui sont donc nécessaires pour ce métier. Et chaque fiche se termine par des sites utiles en faisant référence soit au texte officiel du métier, notamment, si je prends un exemple, les enseignants-chercheurs qui font partie aussi de ces fiches métiers sont régis par un texte qui vient d'être modifié, donc ce texte est accessible par le fiche. Les conseils de l'ordre, tous les conseils de l'ordre des différentes filières sont également accessibles par ces fiches métiers. Voici la présentation de ces fiches, donc un titre, quelques illustrations. Quand il y a un film, et il y a toujours au moins un film en rapport avec cette fiche métier, 1, 2, 3, sur la fiche médecin spécialiste, il y a 5 ou 6 films différents. Ici, donc, le détail de ce que je vous ai annoncé tout à l'heure. Et puis, en bas de la page, mais ça se voit pas ici parce que mon écran n'était pas assez grand, donc les sites utiles qui terminent chacune de ces fiches. On a ainsi réalisé 11 fiches et vous voyez que la PACES donne accès à 6 filières différentes, mais on a pu réaliser 11 fiches puisqu'en fait ces métiers se subdivisent en plusieurs parties. On a en particulier l'enseignant-chercheur, on a plusieurs possibilités pour exercer la pharmacie, on va donc avoir plusieurs fiches correspondant à ces différents métiers. Les séquences vidéo apparaissent sous le bandeau que je vous ai annoncé tout à l'heure, donc la partie plus basse. Et à chaque professionnel filmé a eu comme objectif de devoir répondre aux questions suivantes. Quel est le travail quotidien que vous avez à réaliser? Quelles sont les tâches principales? Comment se déroule une journée type dans votre activité? Et à votre avis, quelles sont les compétences qu'il faut pour exercer ce métier-là? On a ainsi réalisé 21 films, et là vous voyez que les 21 films permettent à l'étudiant qui est en PACES de découvrir des aspects qui sont peut-être des aspects qu'il ne connaît pas forcément. En particulier, le pharmacien répartiteur est un aspect du métier qui n'est pas toujours très bien connu. La sage-femme échographiste n'est pas toujours bien connue. Donc, les 11 fiches conduisent à 21 films. La suite des films est ici. Là, on a tout un ensemble de films qui correspondent aux médecins spécialistes. Ici, les pharmaciens sous différents aspects et les différentes façons d'exercer le métier de sage-femme. Alors, le film, je vais vous le montrer après, quand il se présente, il apparaît de cette façon, avec un titre qu'on a essayé d'être un petit peu plus accrocheur que simplement l'intitulé du métier, un petit bandeau de quelques lignes qui présente le professionnel, alors identifié par son prénom et uniquement son prénom pour des problèmes de non-publicité pour ceux qui sont installés en libéral, donc ils sont tous identifiés par leur prénom. Et on rappelle dans ce petit bandeau leur mode d'exercice en cabinet, à l'hôpital, dans une ville universitaire, etc. La présentation générale, donc cette présentation générale est en cours de réalisation, et quand je dis en cours de réalisation, elle est en cours de réalisation ce matin. Donc c'est une séquence filmée d'environ 50 minutes et qui prend le problème un peu par l'autre côté, c'est quels sont les différents lieux d'exercice de ces métiers de la PACES et qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital, quel est le professionnel qu'on peut rencontrer à l'hôpital, etc. Donc voilà le site donc tel que je vous l'avais présenté tout à l'heure. Alors j'appuie sur ça, je crois. Les fiches métiers, voici les fiches métiers. Là, ça se présente tel que je vous l'ai annoncé, avec les différentes informations donc qu'on peut avoir, avec un site qui apparaît à la fin. Et tout en haut, juste en dessous des images, on va avoir deux films différents. Voici le film qui se présente. On avance un peu pour ne pas être...
Ma journée type, c'est mes patients qui arrivent à heure régulière, on a un planning... Et puis on a un plan de traitement.
Prendre un autre. Je passe l'introduction, parce que c'est toujours la même.
Souhaiter et apprécier la relation à la personne.
Il faut réussir à consacrer suffisamment de temps à chaque personne et en essayant de bien être réglé sur les horaires. Je pense que...
Donc en conclusion, ce site est en fin de réalisation, puisque la réalisation terminale, c'était la partie de la séquence globale qui est en train de se faire aujourd'hui. Ça devrait normalement permettre aux étudiants de la PACES de découvrir un peu les différents métiers auxquels ils devront, dans lesquels ils devront s'orienter. Alors les métiers, certes, qu'ils connaissent, mais ils ne connaissent pas tous les aspects de ces métiers, et ça leur permet de leur faire découvrir des métiers auxquels ils ne pensent certainement pas, en particulier comme exemple médecin rééducateur, pharmacien répartiteur ou encore chercheur, qui sont des métiers qui ne sont pas les premiers qui apparaissent à l'esprit des jeunes qui sont en première année actuellement. Alors la diffusion de ce site sera sur le portail de l'université Henri Poincaré à Nancy, donc accessible pour tous les étudiants de Nancy Université, sur le serveur de l'UNF 3S, dès que ça sera complètement terminé, et ça sera complètement téléchargeable par les différentes universités qui voudraient mettre à disposition de leurs étudiants ce site pour répondre à la demande de l'arrêté officiel qui demande une information donc assez précise des métiers auxquels les étudiants peuvent accéder. Alors je remercie Geoffrey Receveur qui a réalisé tous les films, tous les montages, le site, et puis tous les professionnels qui ont accepté d'être filmés dans leurs fonctions de tous les jours. Je vous remercie.
Donc quelques mots pour évoquer quelques mots ce sujet important. Donc moi j'ai entendu Albert-Claude Benamou qui parlait de la problématique d'internationalisation de l'UNF 3S. Et donc je voudrais évoquer un aspect qui est la gestion et la valorisation du patrimoine numérique, des ressources pédagogiques qui sont proposées, sachant que d'autres actions peuvent être menées. Donc je vais aller relativement vite en introduction pour planter le décor. Donc toutes les UNT produisent des ressources numériques ou au moins indexent des ressources numériques en quantité très importante. Un autre élément important sur lequel j'aurai pas le temps d'insister, c'est que les établissements dans le cadre de l'autonomie produisent aussi des ressources numériques et viennent un petit peu en parallèle, je dis pas en concurrence avec les UNT. Donc il y a une réflexion là aussi à mener pour intégrer cette dimension-là. Et on voit bien que la valorisation n'est pas qu'un problème des UNT, c'est un problème des établissements universitaires, c'est un problème de toutes les structures. Et donc quand on veut valoriser la production au niveau national ou international, l'idée c'est d'avoir une cohérence dans l'analyse de cette problématique, de telle manière que la production des ressources pédagogiques francophones soit visible avec éventuellement les mêmes méthodes. Donc inutile d'insister pour dire que la valorisation, c'est de faire en sorte qu'on voit nos ressources autre que sur le site sur lequel on veut accéder, celui de l'UMVF, celui des différentes composantes, mais est-ce qu'on le voit sur les sites internationaux, sur les moteurs de recherche internationaux ou pas? Aujourd'hui, la réponse était non. Et donc, moi, je pense que pour assurer une meilleure visibilité de ces ressources, il faut élargir les canaux de communication, c'est de la com, et donner une visibilité de ces ressources ailleurs que sur les sites, sachant que, bien entendu, la vie des sites UMVF, etc., perdure et est un point d'accès privilégié pour nos étudiants. Mais au niveau international, ça pose un problème. Donc les incontournables, à mon avis, pour pouvoir gérer ça de manière cohérente, c'est qu'il faut qu'il y ait des politiques qui soient établies, on ne peut pas faire n'importe quoi, et surtout avoir des dispositifs qui soient interopérables, c'est-à-dire que si on veut être visible au niveau international, il faut s'appuyer sur des normes et des standards internationaux. Alors là, je mets une phrase qu'avait prononcée il y a deux ans, non, en 2008, ici même à Bordeaux, Bernard Michon, qui disait « on a l'impression d'être devant un grand bazar ». Effectivement, si on ne fait pas attention, on va avoir des structures qui produisent des ressources numériques, qui les stockent sur leur entrepôt, qui seront visibles par les personnes qui accèdent à ces entrepôts, et puis c'est terminé. Et donc la visibilité, forcément, elle existera, mais le périmètre sera relativement limité. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer tout ça? Moi, je pense que c'est au niveau de l'analyse des quatre temps forts dans la vie d'un contenu numérique, que vous connaissez, hein, la création et la gestion, qui est un point important, mais que j'évoque pas ici. Point important, je vous en parlerai sûrement dans notre réunion, hein, c'est les chaînes éditoriales, c'est tout ça. Moi, ici, ce qui m'intéresse, c'est qu'une fois qu'elle a été produite et stockée quelque part, comment on la rend visible? Eh bien, c'est les points 3 et 4, c'est-à-dire comment on va indexer cette ressource et la résumer avec des mots-clés. et comment ensuite on va la publier et faire en sorte qu'elle soit accessible non seulement par les étudiants sur le site, mais comment on va la partager. Donc sur ce quoi je vais insister, c'est les trois petites flèches orange, hein, c'est-à-dire comment on va pouvoir la voir au niveau international. Et donc, encore une fois, c'est le prix à payer, c'est de s'appuyer sur des normes et des standards internationaux, sinon on n'y arrivera pas. Alors, ces normes et standards, dans le cadre des ressources pédagogiques, il n'y a pas trop de débat, donc c'est relativement simple, quoique. Concernant l'indexation, on va utiliser des normes internationales qui est le LOM, Learning Object Metadata, qui est une norme I3E, c'est pas n'importe quoi, qui a été francisée grâce aux travaux, je vois Anne là-haut, vous voyez, de Feu, la SDTIS, au sein de groupes qui ont permis d'en faire une version francophone, FR et SUP, adaptée à l'enseignement supérieur. Et donc aujourd'hui, je crois que c'est important de s'insérer dans cette démarche-là, en apportant éventuellement la spécificité, j'y reviendrai, de nos composantes ou de nos disciplines. Concernant la publication et la visibilité à l'international, là aussi c'est relativement simple. Depuis 10 ans, il y a des normes qui sont sorties, à la fois pour structurer les entrepôts, c'est de l'informatique pure, et deuxièmement, comment échanger ces fiches entre différentes structures au niveau international. Ben, il y a un protocole d'échange qui s'appelle OAIPMH, Open Archive Initiative, Protocol for Metadata Harvesting, qui est connu et qui permet d'échanger les fiches, on va voir comment, au niveau international. Et donc ces deux types de normes et standards donc sont soutenus en France, je pense que c'est important de le dire, l'action du ministère a été importante, hein, au niveau du groupe SUP-LOMFR, dans lequel nous sommes à différentes occasions intervenues, au nom à l'époque de l'UMVF, j'en reparlerai tout à l'heure, et au niveau du consortium OAI, on figure au comité de pilotage par ma modeste personne. Donc on voit bien introduit dans cette approche-là. Alors je voudrais vous montrer quelques exemples. Si on regarde un petit peu le paysage que l'on a aujourd'hui, on a un changement de paradigme profond, c'est-à-dire des UNT qui vont créer des entrepôts de métadonnées, donc de fiches. Alors UNF3S, l'UNIT le fait, l'UNGF le fait, toutes les UNT le font, avec des fiches qui sont, les flèches, je veux dire qu'elles sont exposées. C'est-à-dire tout le monde peut venir les prendre, les chercher, les moissonner en termes techniques. Et vous avez au milieu de l'écran, là, par exemple, une structure qui va dire, moi, pour donner une visibilité régionale, nationale, internationale, je vais aller moissonner ces différents entrepôts. C'est par cette moisson qu'on va pouvoir être vu des différents dispositifs. Je vous donnerai deux exemples tout à l'heure. Et donc ce qui est important de voir aussi, mais je n'ai pas le temps de l'évoquer aujourd'hui, c'est que les universités aussi développent aujourd'hui des entrepôts de ressources pédagogiques en dehors des UNT. En dehors des UNT. Donc il y a une vraie réflexion là pour essayer d'avoir une cohérence au niveau des UNT. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? On va avoir des productions de ressources en médecine, pour prendre cet exemple-là, qui seront peut-être plus aujourd'hui forcément indexées au niveau de l'UMVF ou autre. Mais je n'ai pas le temps de développer. Alors quelques exemples concret concernant l'UMVF, que je connais un peu mieux, c'est qu'historiquement, depuis les années 2000, l'UMVF avait sous-traité à Rouen l'équipe de Darmonie l'indexation et la mise et la visibilité de ses ressources, de 9000 ressources. Donc aujourd'hui ça fonctionne, le moteur de recherche fonctionne, sauf que la limite c'est que cette indexation était propriétaire et on ne voyait ses ressources que si on allait sur le site de Rouen. Et puis c'était terminé. Donc on a retravaillé au sein de l'UMVF avec plusieurs projets qui ont été financés par l'UMVF pour avoir trois actions, je vais les relativement vite. Premièrement, on a rendu toutes les notices, les 9000 notices qui sont compliantes avec la norme, le standard international. Deuxièmement, on a créé l'entrepôt de l'UMVF qui est compliant avec le protocole d'échange OIPMH et qui donc aujourd'hui expose les trois flèches oranges, je vous donnerai deux exemples tout à l'heure, à toute structure qui veut récupérer les fiches, entre guillemets, de l'UMVF. Et puis, on a travaillé aussi au niveau du SUP-LOMFR pour que l'UNF3S soit connu. En particulier, on a beaucoup œuvré pour qu'on, dans les fiches, on normalise le fait qu'une fiche est produite par l'UNVF et aussi par chacune des quatre sous-composantes. Donc aujourd'hui, tout ça est normalisé. Donc vos fiches seront clairement identifiées, UNF3S-UNFSPF, etc., etc. Alors deux exemples pour aller très vite. Le portail Inter-UNT et le catalogue WARCAT. Alors le portail Inter-UNT, l'an dernier, au moment de la crise H1N1, le ministère s'est inquiété, il dit comment on peut avoir une visibilité nationale de toutes les productions de toutes les UNT. Ben, la solution elle a été vite trouvée, c'est de dire chacune des UNT a un portail qui respecte la norme OAI, on va moissonner l'ensemble des portails, des UNT et on va créer le portail inter-UNT qui va permettre aux étudiants d'avoir une visibilité nationale. Alors ça ne veut pas dire que chacun des portails n'existe plus. On est bien d'accord. Hein. On est là dans un dispositif complémentaire et donc le portail inter-UNT affiche plus de 20 ou 30 000, je ne sais plus combien, fiches. Ce qui ne veut pas dire qu'encore une fois, vos portails dans chacune des UNT n'existent pas. S'il n'y avait pas eu cette interopérabilité que je viens d'évoquer, jamais on n'aurait pu avoir facilement une vision nationale et transversale. Le second exemple est encore plus révélateur. Donc là, je ne rentre pas dans le détail. Vous pourrez aller sur le portail pour voir les 9000 ressources de médecine. Si on n'avait pas eu l'entrepôt AI de l'UMVF, on n'aurait jamais été vu sur le portail Université numérique. L'autre exemple est encore plus intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez l'Online Computer Library Center, qui est une qui date de 50 ans, qui a été l'initiative, à partir des travaux faits dans les bibliothèques, de dire on va essayer de rassembler tout ce qui est fait dans les bibliothèques au niveau international, c'est-à-dire de connecter toutes les librairies des bibliothèques universitaires, des SED qu'on connaît habituellement, et qui donnent aujourd'hui le plus grand catalogue national, international de ressources numériques. Et vous allez voir les chiffres. Il y a plus d'1,6 milliard fiches. D'accord. Toutes les 10 secondes, il y a une nouvelle fiche qui est ajoutée. Toutes les secondes, il y a au moins une requête, etc. Donc c'est le catalogue le plus grand qui, jusqu'à présent, n'intéressait que les thèses, les choses comme ça. Et depuis 2 ans, ils se sont tournés vers le fait de dire il y a des ressources pédagogiques, entre autres, qui sont produites. Comment on pourrait aussi en donner une visibilité internationale? Donc à l'heure actuelle, si vous tapez dans cet outil-là qui s'appelle WordCat UNF3S, il y a 15 jours, vous voyez absolument rien. Donc visibilité nulle. Donc ce qu'on a fait depuis la rentrée, c'est qu'on a essayé de voir si l'UNF3S pouvait être connecté à ce dispositif-là pour qu'on ait une visibilité internationale. Donc on a négocié avec l'OCLC, qui est très strict, vient vérifier si l'entrepôt marche bien, etc., pour essayer de voir si on pouvait effectivement rentrer dans ce dispositif pour élargir la visibilité. Et donc aujourd'hui, j'ai pas le temps là de faire la démo, mais vous allez sur le site qui s'appelle WorldCat, hein, vous le trouverez dans Google, WorldCat, vous tapez UNF3S et vous trouvez 8990 fiches. Donc voilà. Donc voilà un exemple de visibilité internationale. Alors c'est intéressant, pas intéressant, mais enfin c'est une démarche qui montre bien qu'on va élargir le périmètre à la visibilité en s'ouvrant comme ça, en proposant nos fiches à différentes structures qui sont compliante avec les standards, etc. Donc moi là j'en ai mis 2, mais d'autres structures existent, etc., etc. Alors WordCat, pour juste si vous utilisez le fameux Google, on peut en faire un widget sur un gadget sur la page d'accueil. Il est accessible sur tous les smartphones. Là j'ai mis l'iPhone, etc. Tout à l'heure en venant avec le doyen de joue de Marseille dans l'avion, on s'est amusé. Alors il accède à WordCat et bien entendu il a fait de joue Jacques pour voir s'il y était. Et il a trouvé des thèses, des choses comme ça. Donc, vous trouverez éventuellement donc des choses parmi les 9000 ressources. Alors, concernant, et je conclurai là-dessus, qu'est-ce qui me semble, pour l'UNF3S, des pistes de réflexion, mais qui n'engagent que moi, hein, c'est que le doyen, le président, l'ancien président de l'UMVF, m'avait demandé de faire une étude, de faire un tour d'horizon auprès des 3 autres sous-composantes pour voir comment aborder cette problématique de valorisation en utilisant les normes, les standards. Donc je les ai interrogés avant l'été en particulier, les trois autres sous-composantes. Et donc il est évident que a priori les retours que j'ai eus, c'est de travailler de manière cohérente dans le cadre d'un projet transversal, était quelque chose qui était intéressant parce que ça ne faisait que valoriser ce qui était fait déjà, ça potentialisait les efforts. Il n'y avait pas de rupture, chacun fait son site, sauf que dans le cadre d'une cohérence, eh bien, on va obligatoirement augmenter la visibilité. Et donc, ce qu'on peut imaginer comme schéma, j'en propose 2 pour conclure. Donc, chacune des sous-composantes fait son portail OAI et on a un concentrateur qui continue son rôle, celui que l'on gère à Marseille, et qui, lui, est ouvert vers l'international. Voilà, c'est très simple, hein. Chacun fait ses fiches, à condition qu'on soit cohérent, sinon ça ne marchera pas. Ça, c'est la première approche. Mais en discutant donc avec les 3 autres sous-composantes, on voit bien que tout le monde n'est pas forcément prêt. Donc il faut des solutions évolutives, transitoires, pour permettre d'avancer. Et par exemple, à l'époque, c'était nos collègues de STAPS qui disaient, au mois de juillet, mais ça a peut-être changé, on n'est pas encore prêt, on ne peut pas faire notre entrepôt. Alors ce qu'on va faire en attendant, c'est on va continuer à faire indexer les fiches par l'équipe de Rouen. Et ensuite, elles vont être mises dans l'entrepôt commun UMVF-UV2S. et ensuite on aura une visibilité. Donc on voit qu'on a des dispositifs qui sont souples. Ce qui me semble nécessaire aujourd'hui, si ce projet transversal est retenu, hein, c'est de se dire comment on se met d'accord pour travailler en cohérence, encore une fois, pour augmenter la visibilité. Bon, l'exemple de l'OCLC est important, je pense. Hein. Vous l'avez vu tout à l'heure, si vous tapez MIT, Massachusetts, vous trouvez, j'avais une planche, je vous l'avais mis, on trouve, c'est pas un projet franco-français, hein. Le MIT y est, 261 000 fiches. Donc la question c'est, est-ce qu'on veut être là-dedans ou pas? Je crois que la vraie question elle est là. Et donc il faut se retroucher les manches et travailler de manière concertée entre nous quatre, je veux dire, les quatre sous-composantes, pour qu'on ait des chances d'être visible. Moi je pense que c'est faisable, à condition bien entendu qu'on le veuille. C'est plus aujourd'hui un problème de technique. Voilà, je vais très vite.